Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Sylvain Grasset qui vous propose trois thèmes, à savoir 25 février 2002, 25 février 2011, Radio Capi célèbre aujourd'hui 9 ans d'existence. Ensuite, un compromis a été trouvé mardi dernier entre le Premier ministre et les transporteurs aériens privés desservant l'intérieur du pays, et ce, après avoir observé mardi dernier un arrêt de travail pour dénoncer la multiplicité des taxes de l'État qui alourdissent le prix du billet d'avion. Et enfin, verdict du procès des 11 militaires poursuivis pour viol d'une cinquantaine de femmes à Baraka au sud Kivu, 9 condamnations allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale avec renvoi de l'armée et un acquittement. Participe à ce débat Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien, bonsoir Guy.
Alain Mouzi, le journaliste à Couleur Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Alain Mouzi.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de la Radio Capi et joyeux anniversaire à la Radio Capi.
On est aussi avec Jean-Baptiste Badera, qui est secrétaire de rédaction de la radio Maindelo à Bukavu. Malheureusement, on n'arrive pas à les joindre. Nous allons écouter cette revue de presse que nous propose Kevin Coupé pour savoir comment la presse chinoise a traité l'actualité de cette semaine.
Commençons cette revue de presse par l'arrêt du travail des transporteurs aériens. La tempête tropique titre comme suit les transporteurs aériens en colère. À la base, la multiplicité des taxes et redevances des compagnies aériennes desservant les lignes domestiques ont cloué au sol leurs avions. Pas de vol mardi, au grand drame des passagers. Le journal précise que le pourparler se poursuit encore entre ces opérateurs économiques et le gouvernement pour trouver une solution à cette crise. Le potentiel consacre aussi sa une à la grève des transporteurs aériens. Taxe de sécurité, taxe de sûreté RDA, 60% des taxes sur vol sont été trop pour les transporteurs aériens qui n'ont pas tardé d'exprimer leur ras-le-bol, écrit le journal. Le tout reposant sur des modalités de perception qui, selon les transporteurs aériens, frisent l'illégalité. C'est le cas de la redevance IDES que la RDA a demandé qu'elle soit incorporée d'office dans le prix du billet d'avion, une entorse aux normes internationales en la matière. Cependant, un protocole dont son tiraille et dans les jours qui viennent, indique le potentiel suivant un communiqué de presse rendu public mardi par la primature. Ce protocole servira de modus vivendi en attendant la nouvelle loi sur l'aviation civile en RDC. Et jusqu'à présent, avec le procès des 11 ministères étardissés poursuivis pour viol et exactions commis à Baraka au sud Kivu. Pour l'observateur, le verdict condamnant les 9 éléments des étardissés par la cour militaire du sud Kivu pour viol et crimes contre l'humanité perpétrés à Baraka dans le sud Kivu suscite plusieurs réactions positives. C'est le cas des Nations Unies qui, par l'entremise de son bureau conjoint aux droits de l'homme, ont salué ce jugement à caractère didactique et dissuasif en réaffirmant sa disponibilité à poursuivre son appui à la justice congolaise dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violations de droits de l'homme. Autre réaction, selon toujours l'observateur, c'est celle des États-Unis qui salue le verdict du tribunal militaire pour Philip Crowley, secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Nous approuvant l'initiative du gouvernement de la RDC d'avoir diligemment engagé une procédure judiciaire adéquate afin d'arrêter et d'éliminer dans un tribunal local les personnes accusées d'avoir commis ces viols de masse, parmi lesquels le lieutenant Kibibi Mutware et ses subordonnés. Fin de citation. Autres sujets d'actualité ont été évoqués pendant la semaine, c'est notamment celui relatif à la rencontre entre le Premier ministre Adolphe Mouzito et la conférence épiscopale du Congo sur l'effacement de la dette extérieur, ainsi que celui du dépôt du projet de la CENI.
Merci, Céline Coupé, pour cette revue de presse. Un petit commentaire, Benoît Cambéré. Vous êtes rédacteur en chef pour du magazine Les Échos de la région de Grand Lac, un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous appréciez le travail de la presse pendant cette semaine?
Écoutez, avec le résumé que vient de faire Kelly, ça me paraît effectivement, avec la grève des transporteurs privés, c'était quand même un point saillant. On a eu pas mal d'amis qui étaient bloqués, qui à l'aéroport de Bukavu, qui à l'aéroport de Goma, qui venaient sur Kinshasa, et ça a perturbé un peu. Comme quoi, il est temps que la compagnie nationale LAC reprenne ses ailes, parce que être à la merci des privés, ce n'est pas bon pour un État. En ce qui concerne le verdict de 11 militaires
pour viol,
ben, écoutez, vivement que ça continue. Hein, c'est quelque chose qu'il faut encourager et aller jusqu'au bout.
Allez-y, vous êtes journaliste à couleur télévision, c'est une télévision qui émet depuis la ville de Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse de cette semaine?
En tout cas, le travail est impeccable, battu cette semaine. Comme l'a dit mon confrère Benoît, la crise dans les compagnies aériennes a marqué la semaine et la République continue jusqu'à ce jour, dans ce sens qu'elle a des corollaires avec la crise internationale. Aujourd'hui, on parle de la suppression de trafic aérien sur le plan local, mais aussi ces sociétés font face à plusieurs taxes auxquelles ils sont soumis de la part de l'État, mais aussi il y a une crise de pétrole, des carburants, qui est justement liée aussi à la crise en Libye. Vous savez, la Libye est une station d'essence aujourd'hui pour le monde entier. Elle alimente beaucoup de pays du monde en carburant.
Merci. La réalisation nous signale que Jean-Baptiste Badera est en ligne. Bonsoir Jean-Baptiste Badera.
Bonsoir Dimaté, bonsoir à tous.
Oui, je précise que vous êtes secrétaire de rédaction de la radio Maïngeléo, c'est une radio qui émet depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu, et correspondant de Digital Congo dans cette province. Et quelle est l'actualité qui a dominé la province du sud Kivu cette semaine?
Cette semaine, l'actualité au sud Kivu a été dominée par l'un des sujets que vous avez parlé pour ce soir, Célie, en rapport avec les verdicts de l'audience sereine qui nous avait lieu à Fiji, concernant les militaires accusés d'avoir volé des femmes dans cette partie de province au mois de janvier dernier. Notre point d'actualité cette semaine, c'est cette sécurité qui a prévalu dans les territoires de Kalehi, précisément à Kachiki, mais également dans les territoires de Kabar et à Madingu, où plusieurs personnes étaient emportées par des personnes présumées des scolaires, les forces démocratiques de libération du Rwanda, mais également plusieurs biens ont été pillés et également on a emporté argent et autres biens de valeur comme je venais de le dire, mais aussi on parle de personnes blessées pendant les opérations menées par ces présumés escalaires.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. 25 février 2002, 25 février 2011, Radio Kapi célèbre aujourd'hui 9 ans d'existence. Fruit d'un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et l'ONG suisse Fondation Hirondelle, les statistiques prouvent que Radio Kapi est écouté chaque jour par 21 millions d'auditeurs à travers le monde, dont 14 millions se réclament ses fidèles auditeurs. Et puis, grâce à un traitement d'informations rigoureux et impartial, Radio Kapi occupe une place de leader dans le domaine médiatique en République démocratique du Congo, ce qui ressort d'une dernière étude menée par l'Institut de sondage français IMAR, un institut d'études et de conseils en médias et marketing des spécialistes du Maghreb et de l'Afrique francophone. La radio de la paix est donc devenue un média de référence en République démocratique du Congo et en dehors des frontières nationales. Son site internet est consulté quotidiennement par des millions d'internautes de divers horizons. On écoute Amadouba, chef d'antenne générale des Radio Kapi, qui s'exprime à l'occasion de cet anniversaire.
La célébration d'un anniversaire, c'est certes un symbole, mais un symbole plein de signification. C'est l'occasion pour nous de remercier très chaleureusement nos auditeurs et nos auditrices. L'audience de Radio Kapi aujourd'hui est le fruit de toute une stratégie qui a été mise en œuvre, puisque Radio Kapi offre une diversité d'émissions, d'informations, d'éducation et de divertissement et vise tous les publics par son offre de programmes et de sujets. C'est dire aussi que Radio Kapi veut contribuer à la formation d'une opinion publique responsable dans la mesure où certaines émissions phares comme Parole aux auditeurs et Dialogue entre Congolais sont des émissions exemplaires d'un espace participatif d'expression démocratique. Les auditeurs ont constaté que l'actualité prend toute sa place et aujourd'hui les langues nationales occupent de plus en plus de la place dans cette actualité. C'est ce qui fait le caractère populaire de Radio Kapi et sa force aussi.
Dedan Kambéré, Radio Kapi totalise 9 ans d'existence. Votre réaction?
Bah, écoutez, d'abord, bon anniversaire à vous tous ici dans la maison et bon anniversaire à vos millions d'auditeurs, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose, moi qui suis aussi auditeur de Radio Kapi, et partout où je vais en voyage, n'est-ce pas, à travers le pays, c'est avec délectation que je vois des millions d'auditeurs qui, au champ, à Zongo, avec dans l'Équateur, n'est-ce pas, avec un transistor collé à l'oreille en train de suivre Radio Kapi, à Mwanda dans le Bas-Congo ou le Congo central, n'est-ce pas, à Aru dans la province orientale dans l'Ituri, à Goma, à Beni, à Lubero, à Bunia, à Tikapa, à... bref, partout en République démocratique du Congo, j'ai eu à le vivre, j'ai eu à voir des gens qui sont du matin au soir collés à Radio Kapi, et même avec cette particularité de la musique le soir, n'est-ce pas, il y a des coins où on met Radio Kapi pour savourer une bonne bière en train de suivre la bonne musique stéréo qui sort de Radio Kapi. Vivement 10 ans de Radio Kapi, félicitations, continuez sur cette lancée. Radio Kapi a pris vraiment la place dans le cœur des Congolais, le cœur des Congolais qui sont devenus orphelins du grand tam-tam d'Afrique qui s'est tu depuis, malheureusement. Et même à l'étranger, chaque fois que je quitte le pays, je vois comment les Congolais de l'étranger sont accrochés à Internet pour suivre, ou même sur ondes courtes. Je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud, j'étais étonné de voir des Congolais qui, très tôt matin, suivaient Radio Kapi sur ondes courtes pour suivre les nouvelles du pays. Radio Kapi est véritablement la véritable radio nationale actuellement.
Merci pour ce témoignage, Alain Mouzi. Comment vous appréciez les travaux des Radio Kapi après 9 ans d'existence?
En tout cas, Guy, je jette des fleurs à la Radio Kapi. Un travail formidable que les journalistes de la Radio Kapi ainsi que tout le personnel ne cesse d'abattre durant les 9 années passées. La Radio Kapi, moi, je la considère comme le thermomètre du pays qui essaye de donner la température du pays sur les différents aspects, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect culturel. De par d'abord sa couverture nationale, aujourd'hui la radio Okapi est suivie pratiquement dans la quasi-totalité du territoire national. Ça, c'est un atout majeur pour accrocher un si grand nombre de publics, mais aussi de par la ligne éditoriale de la Radio Kapi. Bon, moi, je ne porterai pas un avis critique sur cela. Peut-être une opinion se demanderait pourquoi ne pas commencer, par exemple, sur les informations politiques, économiques. Parfois, on ouvre les journaux avec la sécurité à l'intérieur du pays. Ça relève de la ligne éditoriale de la Radio Kapi. Chaque maison diffère d'une autre par sa ligne éditoriale, mais aussi c'est une radio où l'information est traitée de manière avec beaucoup de finesse et à la grande satisfaction de beaucoup. Bon, moi, si je suggérerais à la Radio Kapi, c'est d'avoir une couverture totalement nationale. Dernièrement, j'étais à Mweka, j'avais du mal parfois à capter la Radio Kapi. Nous étions déconnectés. Pourtant, à Kananga, la radio Kapi est captée 5 sur 5. En tout cas, grosso modo, coup de chapeau à la radio Kapi pour une semaine.
Jean-Baptiste Badera, ou après 9 ans, quel bilan pouvez-vous dresser du travail de la radio Kapi?
Du matin, il faut d'abord commencer par souhaiter joyeux anniversaire à tous les personnels de Radio Kapi qui, pendant les 9 ans, a abattu un travail de titan, un travail très très important pour les populations congolaises, parce que à partir de Radio Kapi, la quasi-totalité de la population congolaise a accès à une vraie information, parce que il faut aussi saluer la qualité de recherche de l'information, de collecte de l'information, en tout cas c'est d'une façon suivante professionnelle que le font les gens de Radio Kapi avec autant de rigueur, ce qui en tout cas donne un crédit très considérable pour cette radio qui en tout cas pendant les 9 ans, surtout pendant les premières années, a réussi à réunir les Congolais, parce que actuelle Radio Okapi était capable de couvrir presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ce qui a permis en tout cas aux Congolais d'avoir une vraie information et de continuer donc sur leur chemin qui a amené jusque à la réunification du pays, jusqu'aux élections. Même sur la voie démocratique, Radio Okapi a toujours accompagné les Congolais. En tout cas, je pense que pour tout celui qui est honnête, il doit saluer le travail abattu par Radio Okapi et de par sa ligne éditoriale qui, enfin, tout droit vers les intérêts du peuple congolais, parce que tout d'abord, en tout cas, on sent une grande proximité des radios Okapi par rapport aux attentes du peuple congolais. Et son impact restera à jamais gravé dans la mémoire des Congolais honnêtes.
Benoît Cambéré, qu'est-ce qui aurait dû être passé par la radiographie et qui n'a pas encore été fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le travail de la radiographie?
Ben, Radio Okapi reste d'abord. Ben, on a beaucoup parlé de Radio Okapi sous la MONUC. On se demandait si Radio Okapi allait fermer quand la MONUC a fermé. Eh bien non, on a vu que Radio Okapi a survécu à la MONUC et maintenant Radio Okapi continue avec la MONUSCO et que vivement, si la MONUSCO ferme, de grâce que Radio Okapi reste. Bon, certes, tout homme est faillible, n'est-ce pas, toute entreprise. Il y a à améliorer dans beaucoup de domaines, c'est vrai. Par exemple, l'antenne du soir qui est vide et qui propose uniquement de la musique, je crois qu'il serait peut-être bien de voir qu'est-ce qu'on ne peut pas faire la nuit pour tenir en haleine les auditeurs, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui écoutent Radio Okapi 24 heures sur 24.
Je vous annonce que depuis lundi dernier, il y a une nouvelle grille qui est en application.
Ah ben voilà, ben voilà, c'est quelque chose de bien, c'est que vous êtes à l'écoute de comme radio de proximité, c'est vrai, les langues nationales, c'est bien, et puis beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi, par exemple, vous ne variez pas la musique en mettant, par exemple, la musique religieuse. On se pose des questions, est-ce que c'est une ligne de conduite dont on peut se poser la question. Et effectivement, il y a aussi le fait que les informations se suivent, les langues nationales. Maintenant, j'ai constaté qu'on a ajouté des tranches de langues nationales, mais il faudrait que Radio Okapi soit une véritable radio nationale et qui passe les langues nationales. Les rediffusions aussi. Des fois, les rediffusions passent trop tôt. Pour certains, le point de presse, pourquoi ne pas le rediffuser, par exemple, c'était le cas à une certaine époque, pourquoi pas ne pas le faire, et le week-end, par exemple, récupérer des émissions qui sont passées pendant la semaine pour permettre, tout le monde n'est pas accro de la radio du matin au soir, pour permettre aux gens de suivre des émissions qu'ils ont ratées pendant la journée. Tout le monde n'a pas Internet pour suivre à tout moment ce qu'il veut suivre.
C'est ça. À la musique, comment vous entrevoyez l'avenir de cette radio dans les paysages médiatiques congolais?
Oui, l'avenir est radieux en essayant de renforcer la couverture nationale, que la radio Okapi puisse couvrir totalement la République et voir s'étendre comme il est fait ailleurs. Moi, j'étais à Mouika, comme je l'ai dit, j'avais difficile à écouter la radio Okapi, mais je pense que les habitants du territoire de Mouika, au Kasaï occidental, ont cette soif d'être informés sur la situation générale du pays. Comme l'a dit mon confrère Benoît, nous aimerions que les émissions soient variées davantage, que cela touche pratiquement tous les domaines de la vie humaine, notamment les domaines chrétiens aussi. Pourquoi ne pas avoir des émissions chrétiennes? Ce n'est pas parce que je suis chrétien, mais la République démocratique du Congo est un pays, je peux dire, à 90% des chrétiens. Une émission chrétienne serait une bonne chose, et surtout très tôt le matin, avant de commencer la journée, très souvent nous commençons avec la prière, une émission chrétienne, des chansons chrétiennes, ça serait une bonne chose.
Oui, mais il faut aussi rappeler que les Nations Unies, c'est aussi plusieurs religions.
Oui, exactement, plusieurs religions. Mais c'est une radio qui part de Kinshasa. Nous devons aussi nous adapter au contexte congolais.
Jean-Baptiste Badera, quels vœux vous formulez par rapport à l'avenir de la Radio Capi?
D'abord, je souhaiterais que Radio Capi puisse faire un effort pour dans la variation des présentateurs des infos en langue, parce que, par exemple, nous qui sommes sur le phone dans la majeure partie de l'Est du Congo, on sent très souvent que ce sont presque les mêmes voix, si pas la même voix qu'on suit souvent le matin, il serait bon et qu'on puisse par moment varier les voix des personnes pour un peu permettre aux auditeurs de Radio Capi de connaître d'autres journalistes qui travaillent dans Radio Capi, mais aussi c'est aussi bon. Quand on fait les variations, ça donne un peu plus de bonheur à suivre un média. Mais aussi, par rapport à la crise qui frappe des slums sur le monde médiatique, je ne sais pas si Radio Capi, qui est une radio des Nations Unies, est aussi concernée, mais j'ai peur par rapport à ça, parce que je souhaite que Radio Capi puisse continuer à exister, comme l'a dit mon confrère de l'Assemblée, et même après la MONUSCO, qu'elle puisse continuer à exister, parce que vraiment, l'information, le travail qui est là-bas est d'une importance très capitale pour la population, pour les Congolais, pour les villes congolais, parce que un homme qui n'est pas informé est un homme dangereux, et l'information très importante pour le développement de lui-même. Et donc là, je souhaite que Papi puisse en tout cas tout faire pour pérenniser son action en République démocratique du Congo, et ne pas penser que non, si une fois la MONUSCO partie, ça va aussi finir avec Radio Capi. Donc, c'est ça, la période de Radio Capi, elle est mon vœu le plus important du matin.
Merci, c'est aussi une occasion pour nous de nous souvenir de nos collègues qui nous ont quittés. Il s'agit de Serge Maessé, Didas Namujimbo, Jérôme Ngongo, Nathalie Moussiba, Jean-Claude Bissiabo, Joachim Kalumendo, Madame Odia, Papa Léon, Jacques Mwamba. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Un compromis a été trouvé mardi dernier entre le Premier ministre et les transporteurs aériens privés desservant l'intérieur du pays, et ce, après avoir observé mardi un arrêt de travail pour dénoncer la multiplicité des taxes de l'État qui alourdissent le prix du billet d'avion. Reprise des vols mercredi dernier des compagnies privées desservant l'espace aérien congolais. Cela après l'arrêt de travail observé mardi par ces transporteurs aériens sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision est consécutive au compromis trouvé le 22 février dernier lors de la rencontre entre les transporteurs aériens et le Premier ministre Adolphe Mouzito. Mimi Ngumba pour le détail.
Certaines de ces compagnies ont carrément doublé leurs vols ce mercredi pour rattraper le retard d'hier. C'est le cas d'Air Katanga et Ewabora pour ne citer que les deux. On pouvait donc observer cette reprise à l'aéroport national de Ndolo et à l'aéroport international de Ndjili. D'après le président du comité de transporteurs aériens, la rencontre de ce mardi avec le premier ministre a permis de décanter la situation et trouver un début de solution. C'est notamment la signature d'un protocole d'accord intervenu ce mercredi pour la suppression des taxes dites illégales. C'est ce que nous fait savoir M. Stavro.
Par exemple, nous avons les taxes FTT, le Fonds de promotion du tourisme. Bon, ça n'a rien à voir avec l'aviation. Nous avons les taxes des entités autonomes administratives décentralisées. La taxe sur la grippe aviaire, la taxe d'hygiène, la taxe régionale qu'on appelle, la taxe sur la relance provinciale.
Selon la même source, jusque lundi dernier, ces différentes taxes rendaient difficile le fonctionnement de leur compagnie. À titre exemplatif, pour 10 minutes de vol entre Kinshasa et Brazzaville, il fallait payer 156 dollars pour taxer des ventes, alors que les billets étaient gênés à 186 dollars, une situation qu'ils qualifient d'aberrante, d'où leur mouvement de contestation. Pour rappel, les transporteurs aériens ont observé un lockdown de ce mardi pour désapprouver la multiplicité de taxes de l'État.
Nous allons lire le hymne de certains journaux. Nous avons l'avenir ici qui dit au sujet de la double taxation, Adolphe Mouzito calme les transporteurs aériens. Le quotidien La Référence Plus dit pour protester contre certaines taxes, RDC journée sans avion. Et puis nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit ceci, reprise du trafic aérien aujourd'hui, le gouvernement rassure les compagnies d'aviation. Alain Mouzi, Stavros, qui est le patron de la compagnie aérienne Ewabora, dit ceci, s'ils ont agi ainsi, donc si les transporteurs aériens ont agi de cette manière-là, c'est parce que beaucoup de réunions ont été tenues. Ils ont estimé plusieurs fois leurs problèmes et comme les solutions n'ont pas été trouvées, ils ont décidé donc de fermer les arrêts de travail. Et comment vous réagissez par rapport à cette attitude affichée par les transporteurs aériens privés?
Guy, c'est une attitude tout à fait normale. Dans une expression démocratique, on peut exprimer sa volonté, son désaveu devant une situation quelconque, mais cela fait suite déjà à une visite, il y a quelques semaines passées, du président de la République, accompagné du Premier ministre, dans les ports et aéroports, justement, c'était pour essayer d'assainir les cadres des aéroports et ports en RDC pour que ceux-ci puissent alléger leurs taxes pour faciliter le trafic fluvial comme aérien. Et moi, je pense que c'est une question qui était sur la table du Premier ministre. Et les transporteurs, conscients de la situation, conscients de la persistance de leurs difficultés vis-à-vis de ce poids des taxes, ont agi ainsi. À mon avis, Guy, c'est une démarche tout à fait normale, dans ce sens que, depuis un certain temps, comme vous le savez, les sociétés d'aviation ne cessent d'accumuler de pertes liées à la multiplicité des taxes. Je vous dirais même qu'il y a certaines taxes dont la nomenclature est ignorée. Des taxes, par exemple, sur la grippe aviaire, des taxes de la DGRK, des taxes de la DGM. Vous voyez, cette panoplie des taxes ne permet pas aux sociétés d'aviation de pouvoir maximiser leurs recettes. C'est pour cela que certaines d'entre elles ont décidé carrément d'arrêter le travail au lieu de travailler dans la perte. Comme il vient de le dire, qu'un protocole d'accord sera signé, a été signé depuis le mercredi dernier, et pourvu que cela perdure, car signer un protocole d'accord est une chose, et assurer sa mise en œuvre et son suivi en est une autre.
Donc, à Berlin, l'attitude des transporteurs aériens est tout à fait normale. Vous partagez ce point de vue?
Bon, non, pas tout à fait normal. Un transporteur aérien doit nécessairement respecter le client. C'est vrai, ils ont le droit de protester, mais pas au détriment du client. À titre d'exemple, ceux qui ont essayé de voyager avant ce mercredi-là, n'est-ce pas, ils n'ont même pas été avertis de ce qui s'est passé. Les gens sont arrivés à l'aéroport, c'est à l'aéroport qu'on leur a dit qu'il n'y avait pas vol, sans donner beaucoup plus d'explications, comme si c'était les voyageurs qui étaient à la base de toutes ces taxes. Ça, c'est un. De deux, et pourquoi chaque fois des compromis? Compromis en compromis. On a pris une décision pour diminuer le nombre de services dans les ports et aéroports. Cette décision n'a pas connu de début d'application. Il y a trop de laxisme dans notre pays. C'est vrai, quand on dit qu'il y a trop de taxes, c'est au détriment de la population. Les taxes qu'on fait payer sont répercutées sur les billets et la République démocratique du Congo est le pays où les prix de billets sont les plus chers du monde. Pour aller de Brazzaville, à titre d'exemple, à Johannesburg, le billet coûte moins cher qu'un billet Kinshasa-Goma. C'est impensable. Et le transport aérien dans notre pays est très, très, très cher. Le coût est exorbitant, tout simplement à cause de toutes ces taxes.
D'où la réaction des transporteurs aériens justement dénoncer cette façon de faire.
Tout à fait, ils doivent dénoncer auprès de l'État, mais ils doivent également respecter les clients. Moi, je veux bien que maintenant, qu'ils trouvent un compromis avec l'État congolais, que les prix baissent et qu'on ait des billets à bon prix. Ce serait une retombée positive. Mais d'ici à ce qu'on ait ces billets à bon prix, il y a un chemin. Il faudrait aussi que l'État cesse avec trop de taxes, toutes les taxes. Et ça, c'est encore une fois l'État qui doit réglementer ce secteur et voir, et vivement que la compagnie nationale. Vous avez vu que ce sont les privés qui tiennent le transport aérien en République démocratique du Congo. Dès que les privés ont décidé d'arrêter, eh ben c'est fini. Il n'y a pas une compagnie aérienne nationale, il n'y a pas l'acte qui pouvait faire le contrepoids pour continuer à transporter les gens. Eh ben non, quand les privés décident d'arrêter, eh ben le pays est paralysé. C'est assez dommage.
Jean-Baptiste Badera, trop de taxes qui l'attaquent, cette multiplicité des taxes n'est-elle pas consécutive à ce parc de doublement des recettes?
Bon, c'est trop dire, hein, c'est multiplicité des taxes, parce que plusieurs fois, par exemple, dans cette partie de la RDC, au sud Kivu. Nous, ce phénomène, on connaît plusieurs clients des compagnies aériennes, ne nous suivent pas du tout, parce que c'est presque tous les trimestres ou tous les semestres qu'on assiste à de tels scénarios pour ce qui concerne les transports lacustres au sud Kivu. Et chaque fois, ce sont les taxes que les opérateurs économiques prennent comme motif pour suspendre ou pour débrayer. Et donc, ce qui est arrivé, c'est parce que même si les compagnies aériennes ont les droits de réclamer qu'ils puissent travailler dans un climat sain, mais également de savoir que les clients ont également les droits d'être informés afin d'être considérés comme tels. Parce que chaque fois qu'il y a de telles situations, ce sont les clients qui sont les premières victimes. Et on ne comprend pas du tout depuis ce mois de janvier. La fête où les opérateurs économiques du site Kivu ont initié des rencontres avec les autorités provinciales pour justement dénoncer ces taxes qui, selon eux, sont à la base de ces taxes exagérées. Comme je viens de le dire, un billet d'avion, par exemple, et Bukavu, Chabon, la deuxième province, coûte le même prix qu'un billet Bukavu, Kinshasa. Ce qui est très, très malheureux, c'est tout cela comme impact sur la vie de la population. Parce qu'à Chabon, par exemple, aujourd'hui, un sac de ciment qui coûte $20 à Bukavu coûte $100 à Chabunda. Sûrement parce que on doit payer et le prix d'argent est un peu plus exagéré. Et moi, je pense que tout ça, c'est une responsabilité du gouvernement de voir comment on doit réellement tenir compte de la vie de la population, comme vous le disiez la semaine passée, améliorer la vie de la population, lutter contre la vie chère. Et surtout, la première chose, c'est le gouvernement qui doit être responsable. Et tout doit être planifié parce que je pense que la plupart des cas, les choses sont faites d'une façon, d'une manière vague et vague.
Allez-y, parmi ces cas, on parle des fonds de promotion du tourisme, les taxes des entités autonomes administratives décentralisées, les taxes sur la fuite aviaire, taxes d'hygiène, la taxe régionale appelée taxe pour la relance provinciale. Alors, en ce moment, ces taxes, c'est un petit manque à gagner pour les trésors publics qui pourtant a besoin des moyens, le gouvernement a besoin des moyens financiers pour accomplir certaines de ces missions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser et c'est manque à gagner?
Non, mais l'État ne doit pas s'enrichir avec des taxes de services aéroportières. Non. Il y a plusieurs sources d'entrée de l'État pour encaisser les richesses. Ce n'est pas seulement les taxes. Ça, comme l'ont dit mon prédécesseur, c'est la population qui en pâtit. Trop de taxes tue la taxe. Cette multiplicité de taxes fait que le coût du billet soit élevé, fait que même le coût de marchandises. Il a parlé de ça, ce ciment qui est à $20 à Bukavu et à Chabunda $100.
Oui.
C'est tout à fait.
Pourquoi c'est la même province?
La province du Sud Kivu. Donc, pour dire que l'État a ce moyen de générer des recettes, qui sont les ressources naturelles, qui sont les taxes. Et ces taxes ne sont pas seulement les taxes dans les services aéroportiers, il y a des taxes sur le marché, il y a des taxes sur les transports routiers, sur les transports fluviales. Moi, je pense que dire que c'est un moyen pour l'État de faire les richesses, ce n'est pas correct.
Donc, il y a plusieurs sources qui peuvent permettre à l'État de mobiliser des fonds.
Exactement.
Et donc, Abéry, la signature de ces protocoles suffit-elle pour que ces taxes dites illégales soient effectivement supprimées?
Non, on a déjà vu beaucoup de compromis ou de protocoles d'accord signés. Je voudrais d'abord placer un mot, n'est-ce pas, sur ces fameuses taxes pour maximiser les recettes de l'État. J'ai souri tout à l'heure quand tu en as parlé. C'est des taxes pour maximiser la fraude de certaines personnes. Ces taxes-là ne vont pas à l'État du tout. Et tout le monde sait où va cet argent. Maximiser les recettes de l'État, la première des choses serait qu'on bouche les trous des détournements. Là, on va trouver beaucoup d'argent. Mais pour en revenir maintenant au compromis qui a été signé, c'est vrai, un compromis a été signé, comme on a signé d'autres compromis avec les enseignants des universités, avec les médecins, c'est malheureusement des effets d'annonce pour tout simplement calmer le jeu. Et que les choses continuent. Il faudrait qu'on passe aux actes. On a déjà vu combien de protocoles d'accord ont été signés. Les médecins attendent. Bientôt, ils vont encore déclencher la grève. Les professeurs d'université attendent. Ce n'est pas de signer des compromis. Et puis, quelle est cette manie-là? Quand il y a un problème, c'est le Premier ministre qui descend dans l'arène pour régler des problèmes qui peuvent être réglés au niveau de la base. Non, arrêtons.
Il est chef du gouvernement.
Bon, oui, chef du gouvernement. C'est pas le boulot de chef du gouvernement de s'occuper des détails que les administratifs ou les agents de l'État peuvent régler, n'est-ce pas? Toutes ces taxes-là, tous ces services. Il y a eu une ordonnance présidentielle, un décret présidentiel qui avait été signé pour qu'on enlève tous les services des MIAP, des GSSP, tout ça, des aéroports. Est-ce qu'ils sont partis de là? Ils se déplacent un peu, le temps que la caméra, le premier ministre et le chef de l'État passent, mais qu'ils sont passés, ils se remettent là-bas et on sait où va cet argent.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Verdict du procès des 11 militaires poursuivis pour viol d'une cinquantaine de femmes à Baraka, au sud de Kivu. 9 condamnations allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale avec renvoi de l'armée et un acquittement. Justice au sud de Kivu avec ses verdicts sur le procès des militaires poursuivis pour viol à Baraka. Il y a notamment 9 condamnations allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale avec renvoi de l'armée, un acquittement et un cas des mineurs dont la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour militaire siégeant en chambre foraine en matière répressive au premier degré s'est prononcée contre ces 11 militaires accusés de viol sur une cinquantaine de femmes suivissantes le 1er janvier de cette année 2011. Les détails avec Astrid Mouzinga.
Le premier président de la Cour militaire, assisté des 3 juges, ont lu les peines retenues contre ces 11 prévenus militaires des FARDC en présence d'une foule nombreuse qui acclamait à sa condamnation bien prévenue. Ainsi donc, 4 prévenus, dont le colonel Bibi, ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale avec renvoi de l'armée. 2 autres ont écopé de 15 ans de servitude pénale principale. 3 prévenus sont condamnés à 10 ans chacun. Il y a eu un acquitté. Et enfin, la Cour s'est déclarée incompétente pour le cas du prévenu mineur et a demandé au ministère public de le transférer au tribunal pour enfants. Rappelons que ces 11 prévenus ont donc été condamnés pour crime contre l'humanité par emprisonnement illégal, crime contre l'humanité pour viol, crime contre l'humanité pour d'autres cas de violence inhumaine, ainsi que le terrorisme. Le verdict a été prononcé en présence du gouverneur de la province du Sud Kivu, Martin Sambo, qui s'est déplacé jusqu'à Baraka pour la circonstance. Bukavu, Afrique Mujinda, Radio Okapi.
Jean-Baptiste Badera, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction de la radio Maengelo, une radio qui émet depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu. Vous êtes aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. Et comment l'opinion a réagi face à cette information faisant état de la condamnation de ces militaires auteurs de viols?
Oui, Timothée, vous le savez, ce n'est pas tous les jours que on a dans les médias de nouvelles qui plaisent totalement à la population, mais il faut dire ici que c'est dans la joie que la population du Sud Kivu en général et celle de Sud en particulier a accueilli la condamnation de ces militaires accusés de viol au mois de janvier dernier sur plusieurs femmes dans les territoires de Fiji. En tout cas, sur le visage de plusieurs habitants de Fiji qui ont assisté à cette audience, on pouvait lire la joie et l'espoir de voir que cette fois-ci, c'est peut-être la fin de l'impunité. Parce que d'autres pensaient que même si on avait commencé ce champ de forêt, cela ne pouvait pas aboutir. En tout cas, c'était une grande joie. C'est que ce même jour, quand on a sorti ce verdict, le gouverneur a annoncé que tout ces prévenus étaient en route pour Bukavu. Ils vont purger leur peine, mais là également pour que ces militaires accusés de viol seront également soumis à un traitement psychologique parce qu'ils pensent que ce n'est pas seulement un problème d'insulte, mais c'est également un problème de maladie. En tout cas, il faut résumer en disant que c'est en tout cas la joie qui a habité plusieurs sites kivuciens quand ils ont entendu ces répliques.
Alain Mouzi, je rappelle que vous êtes journaliste à couleur télévision, c'est une télévision qui émet depuis la ville de Kinshasa. Ces verdicts, à votre avis, pourraient-ils contribuer à renforcer la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo?
Oui, Guimaté, ces verdicts rencontrent même la tante de Mme Wallström, qui est représentante du secrétaire général des Nations Unies en matière de violences sexuelles, qui a longtemps plaidé pour que les auteurs de viols et de violences sexuelles contre la femme soient punis. Moi, je pense, Guy, qu'à propos de ce verdict, il nous reste à savoir comment cette justice a été rendue à Baraka. Est-ce que cette justice a été juste? Ça, c'est la première préoccupation. Mais aussi, il faudrait que la sanction des auteurs de viols des violences sexuelles puissent s'étendre sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas seulement la partie est qui est affectée par les viols, mais tout l'ensemble du territoire national. Il faudrait que cela puisse s'étendre. Mais aussi, il ne faudrait pas que, qu'on développe la culture de résoudre les problèmes en aval plutôt qu'en amont. Au lieu que nous nous stationnons à résoudre les problèmes des faits qui sont déjà commis, les violences sexuelles, les faits sont là, il faudrait mettre parfois des mécanismes pour empêcher ces crimes odieux puissent se commettre. Par exemple, il y a des gens qui ont autrefois proposé, pourquoi pas, armer parfois certaines femmes qui sont dans les champs, qui vont dans les champs, qui puissent être munies d'une arme blanche ou une arme à feu. Pourquoi ne pas placer dans les tribunaux où les auteurs de viols sont jugés, les femmes, pour que ceci soit jugé avec la rigueur la plus stricte.
Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. La sanction suffit-elle pour régler le problème de violence sexuelle?
Bien sûr que non, bien sûr que non. Il faudrait certes passer à l'éducation, parce que j'ai entendu tout à l'heure quand Jean-Baptiste Badera a cité le gouverneur, n'est-ce pas, que le gouverneur a parlé des gens qui sont malades, qu'on le considère la République démocratique du Congo comme la capitale mondiale du viol, ça devrait nous gêner énormément. Et des gens qui pratiquent les viols, c'est des malades. Et on a vu que ce n'est plus seulement une histoire de la partie orientale du pays, ici à Kinshasa, à l'ouest du pays, partout, le viol est devenu une pratique, j'allais dire satanique. Mais il faudrait qu'on trouve des solutions. Il semble que la misère y est pour quelque chose. Mais il faudrait aussi que l'impunité cesse. Il faudrait que ce procès de Baraka, n'est-ce pas, ne soit pas comme les autres, un effet d'annonce. On arrête ces gens, 20 ans de prison, une semaine après, on les voit dans la rue. Non, il faut que la justice soit rigoureuse, que les peines soient vraiment à endurer pour que ça donne des leçons aux autres. On a entendu parler de Songo Mboyo qui a fait couler à l'Équateur, qui a fait couler l'orbe
de
Salib.
On a parlé de Wadikale.
On a parlé de Wadikale également. Mais quand, après que ces gens soient arrêtés, on les voit dans la rue, qu'est-ce qu'on donne comme leçon aux autres? Ils peuvent se permettre ça et rien n'est fait. Il faudrait qu'on sévisse et qu'on sévisse sérieusement et réellement.
Certains experts estiment que le véritable problème se situe dans la perception que la société a de la femme.
Certes, c'est vrai, mais il faudrait un travail profond d'éducation. Au lieu de distraire les gens, d'affamer les gens, il faudrait que vraiment on conscientise dès l'école le respect de la femme et que la femme aussi se respecte, c'est vrai. Il y a des mesures qu'on peut prendre. Tout à l'heure, quand Alain a parlé de femmes armées, j'ai souri parce qu'il y a un article que j'ai lu dans la presse, ça doit être dans Sitia Grand Lac, n'est-ce pas, où les femmes rurales allaient maintenant avec des chiens au champ, tout simplement pour se protéger contre tous ces violeurs qui déciment les villages à travers la République démocratique du Congo et qui ne sont pas punis. Mais là, qu'on commence à les punir, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on les punisse et que cela serve de leçon et qu'on les punisse réellement et sérieusement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique, Alain Irung à la réalisation assistée de Kéline Coupé, sous la supervision de Kéline Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Okapi. I'm going to go to the hospital.